avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Je viens avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, en effet, il est 17h30 et vous êtes sur Radio Courtoisie et précisément dans l'émission Restons Courtois, l'émission de débat, vous connaissez maintenant, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30 avec tous nos amis, Boulevard Voltaire, Valeurs Actuelles, et puis évidemment L'Incorrect, et puis Radio Courtoisie parce que nous sommes à l'antenne de Radio Courtoisie. Alors au programme de cette émission, deux sujets brûlants, la loi sur l'aide à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté, vient d'être adopté définitivement. C'est fait, en tout cas en vote solennel, en troisième lecture à l'Assemblée nationale. Donc la France vient de franchir une ligne, donc on va recevoir Grégoire Pupin, qui vous savez qu'on avait reçu la semaine dernière, on avait encore un espoir que certains changent leur vote, eh bien non, la loi est quand même passée, donc je rappelle Grégoire Pupin, qui est le directeur général du Centre européen pour le droit et la justice, qui a décortiqué ce texte depuis le premier jour. Donc qu'est-ce qui vient d'être voté exactement? Qu'est-ce que ça change pour les vieux, les malades, les impotents, les personnes sous curatelle, les bipolaires, les établissements confessionnels et pour nous tous? À 18h30, on reçoit Emmanuel Rechberg, qui était là également, vous savez, la semaine dernière, puisque avec Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie, Boulevard Voltaire, Logim et quelques autres dont L'Incorrect, nous avons lancé une grande contre-enquête sur l'écosystème associatif de gauche. Et oui, parce qu'en plus de subventionner, d'être subventionné bien comme il faut, ils défiscalisent, et donc ça veut dire qu'ils sont, en tout cas ils se déclarent d'intérêt général, puis en fait on a découvert, après avoir étudié plus de 300 associations, qu'une bonne cinquantaine était plus que douteuse, et donc vous savez, on continue à sortir une par une ces enquêtes, et donc Emmanuel Rechberg, qui était également l'auteur du livre « Le vrai coût du progressisme » paru aux éditions de l'Artilleur il y a quelques mois. Je rappelle que c'est quand même 7,8 milliards d'euros par an d'argent public injecté dans l'écosystème progressiste. Dedans, il y a des associations. Et donc, il poursuit ses enquêtes, l'ADMD, SOS Racisme, Le Cran, Osez le Féminisme et bien d'autres. Et donc, il va nous raconter un peu ce qu'il a découvert sur ces associations pleines de vertus, de vivre ensemble et d'humanisme. Évidemment, je vous rappelle, chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission par téléphone et par courriel pour poser vos questions à nos invités. Grégoire Pupin, bonjour.
Bonjour Arthur de Wautrigan.
Merci à nouveau d'être avec nous. Donc, vous êtes juriste, docteur en droit, directeur général du Centre européen pour le droit et la justice. Donc, je le disais, vous avez suivi ce texte inique depuis son premier souffle parlementaire. Vous l'avez décortiqué article par article. Vous avez sonné l'alarme sur tout ce qu'il comporte d'ignominie. Et donc malgré tout, cette loi vient d'être votée, un vote solennel hier à l'Assemblée. Alors je rappelle le parcours législatif. Trois votes à l'Assemblée, première lecture en mai 2025, 305 pour, 199 contre. Deuxième lecture le 25 février 2026, 299 pour, 226 contre. Et en troisième lecture hier, donc vote solennel, 30 juin 2026, date funèbre, 295 pour, 232 contre. Donc plus le texte avançait, plus on en débattait. Et moins et plus il y avait d'opposants, les oppositions augmentaient donc à chaque lecture. Et je rappelle qu'au Sénat, il a été rejeté en première lecture, puis en deuxième lecture, et la commission mixte paritaire du 2 juin dernier n'a pas pu aboutir, donc il va repasser au Sénat, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Concernant le vote, on votait majoritairement pour, évidemment, la gauche, le centre, vous savez, le centre, ce qu'on appelle Horizon, Renaissance et tout le tout-team, le groupe LFI, sauf évidemment ceux qui ont des consonances de pas de français de souche, n'ont pas voté ou se sont abstenus, comme on dit. Le groupe UDR a voté 100% contre, une très grande majorité du Rassemblement National et des Républicains ont voté contre, mais il y a quand même 14 députés du Rassemblement National qui ont voté pour, et 5 députés des Républicains qui ont également voté pour, ce qui fait à peu près 10% de groupe, et on retrouve évidemment les progressistes... habituel, Chenu, Tanguy, Ménager et toute la clique concernant le Rassemblement National, mais ils se sont félicités en disant « nous avons des débats et nous sommes respectueux et c'est très bien, oui, en effet c'est sympa d'avoir des débats pour aller seringuer les cancéreux et les vieux ». Grégoire Pupin, que la loi est donc votée, commençons par les faits, qu'est-ce que ce texte aujourd'hui autorise ?
Bon alors merci, donc le texte comme vous l'avez dit d'abord sur la procédure pour finir, donc sera soumis au Sénat, est déjà soumis au Sénat, soumis au vote du Sénat, aux discussions. On peut attendre un rejet probable du Sénat, même assez rapide, et donc le renvoi du texte à l'Assemblée nationale pour un vote final le 15 juillet. Donc le vote vraiment terminé, voilà, solennel de la loi devrait être le 15, mais il faut bien souligner que le Premier ministre conserve un pouvoir à cet égard, et donc M. Sébastien Lecornu a une responsabilité morale personnelle dans l'achèvement du processus législatif. C'est lui qui a convoqué la commission mixte paritaire, c'est lui qui a décidé que les travaux parlementaires devaient continuer, c'est le gouvernement qui inscrit à l'agenda. Donc il a une vraie responsabilité personnelle, morale, sur ce texte. Je pense que c'est important de le souligner. On sait bien que c'est une demande d'Emmanuel Macron qui s'est engagé et qui voit ce texte comme étant l'une de ses grandes œuvres de son deuxième mandat, au même titre que la constitutionnalisation de l'avortement. Donc on voit ce que M. Macron veut laisser à la France après son séjour à l'Élysée. Donc vote le 15 juillet, ensuite très probablement saisine du Conseil constitutionnel dans les 48 heures. Alors là, comme vous le savez, M. Ferrand est au Conseil constitutionnel. M. Ferrand avait lui aussi fait autrefois une grande déclaration pour dire que le grand texte, le grand projet du deuxième mandat de M. Macron, ce serait l'aide à mourir. Donc là, on peut commencer à s'interroger sur l'impartialité, on va dire, objective de M. Ferrand sur ce sujet qu'il a lui-même soutenu, ou même d'autres membres du Conseil constitutionnel. Donc, saisine du Conseil, qui aura un délai maximum d'un mois pour rendre sa décision. Et là, se pose la question de savoir quels seront les députés et les sénateurs qui vont saisir le Conseil. Est-ce que 60 députés...
Expliquez-nous comment ça fonctionne là, pour le Conseil constitutionnel. Parce qu'on se doute bien, étant donné les membres du Conseil constit, tous alléchés les babouches d'Emmanuel Macron, étant donné que c'est lui qui les place, en tout cas en grande partie, ils ne vont pas s'opposer naturellement à cette loi, ou en tout cas ne vont pas faire en sorte que cette loi soit retoquée. Donc qu'est-ce qui peut se passer concrètement, légalement, juridiquement, politiquement ?
Écoutez, politiquement, en théorie, tout peut se passer, ou juridiquement, parce que vous savez que le Conseil constitutionnel a refusé des lois sur la migration, par exemple. Donc, en certaines occasions, il ne se gêne pas pour rejeter des lois. Alors, en certaines occasions, il ne se gêne pas pour être créatif et inventer un principe de fraternité qui justifie de légaliser le fait de passer des clandestins de façon illégale. Donc, il est parfaitement politique dans sa nomination, dans son action. Une partie, effectivement, certains de ses membres sont nommés par le président de la République, d'autres par les présidents des assemblées. Donc oui, il y a une composition politique. Ce ne sont pas des juristes de formation, ce ne sont pas des vrais magistrats pour la plupart, ce sont des hommes politiques qui sont, pour la plupart d'entre eux, donc un parcours de politicien ensuite nommé au Conseil pour garantir, on va dire, le respect de l'orthodoxie républicaine par les lois adoptées. Donc c'est surtout ça là, l'idée. Qu'est-ce qui peut se passer ? On peut imaginer qu'il y a évidemment dans le texte des arguments tout à fait solides au plan juridique, qu'on peut espérer que le Conseil constitutionnel revienne dessus. De la même manière, le fameux délit d'entrave qui a été finalement abandonné par les parlementaires, qui prévoyait de condamner à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende toute personne qui tenterait d'empêcher ou de dissuader un proche de mourir, a été abandonnée. C'était en partie parce que les parlementaires étaient conscients qu'il y avait un risque ensuite de censure par le Conseil constitutionnel. Ah. Voilà. Donc on peut penser qu'à la marge, le Conseil agisse sur certains points, mais probablement pas sur le principe même de l'euthanasie. Si bien qu'une décision pourra intervenir au mois d'août, environ vers la mi-août, et ensuite, promulgation du texte par le gouvernement fin août, début septembre. Voilà.
Pierre-Alexandre Bouclet a une question.
Bonsoir, Grégoire. J'entendais hier sur Radio Courtoisie, d'ailleurs, un sénateur LR expliquer que le texte devait retourner au Sénat avant de revenir et être voté à l'Assemblée.
et que le Sénat allait rejeter tout simplement le texte, comme il l'avait déjà fait, sans même mener le débat, puisqu'il disait qu'ils étaient sages précisément et qu'ils n'avaient même pas besoin d'en débattre. Or, est-ce que d'un point de vue tactique, il ne serait pas utile? On a vu que des gens pouvaient commencer à changer d'avis. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant et même possible, au contraire, de faire durer ce débat au Sénat pour gagner du temps et éventuellement le relancer à la rentrée lorsqu'on sera vraiment rentré dans une campagne présidentielle et que le vote de chacun des députés sera scruté en fonction de son candidat à la présidentielle? Ce serait peut-être une manière aussi d'exercer une pression sur des gens qui vont devoir voter plus que jamais dans une situation de risque. Voilà, je ne sais pas si c'est naïf ou pas, mais si j'étais sénateur, c'est l'idée qui me traverserait l'esprit.
Et j'ajouterais qu'au mois de septembre, il y a le pape qui va venir aussi en France. Oui. Et donc voter ce texte-là avec la présence du pape en France, quand même, ça la foutrait assez mal. En tout cas, ça ajouterait une pression, effectivement, sur le vote des parlementaires.
Vous avez raison sur ce sujet. Le bruit court, effectivement, que les sénateurs veulent présenter une motion de rejet dès le début des débats pour pouvoir éviter de passer plusieurs jours à étudier le texte et à l'amender et à le rejeter. Si bien que ça pourrait écourter considérablement la procédure au Sénat et accélérer et permettre effectivement un vote le 15 juillet. Donc, on peut même penser qu'il y a un peu une certaine duplicité parce que la seule façon d'empêcher ce texte d'être adopté, c'est effectivement une forme d'obstruction du Sénat pour gagner sur le calendrier. Or, en faisant ce rejet d'emblée, certes, ils font passer le message de leur rejet, mais en même temps, ils facilitent l'adoption finale par l'Assemblée. Voilà, j'exclus pas une certaine forme de duplicité. En tout cas, vous avez raison, ce serait la meilleure chose que puisse faire le Sénat, c'est d'étudier encore et toujours le sujet, parce qu'on l'a vu, chaque fois qu'on le creuse, le soutien recule.
Il serait peut-être bon que chaque auditeur écrive le fasse savoir, oui, à son sénateur pour lui soumettre l'idée, éventuellement, s'il était réellement opposé à l'euthanasie et au suicide assisté, de proposer de multiples amendements. En plus, ça ferait la nique à Gérard Larcher et Madame Braun-Pivet. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a voté. Or, il est de coutume que la présidente ne vote pas lors de ces lois, quelles que soient les lois, et encore plus quand ce sont des lois importantes qui font débat et qui basculent la société dans autre chose. Et cette autre chose est un avenir assez sombre, en tout cas de mon point de vue. Qu'est-ce que vous pensez du vote de Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale ?
Bon, en fait, elle n'a pas caché son parti pris. Hein. Elle a toujours dit que c'était pour elle une priorité. Elle a manifesté son soutien. Elle veut participer. C'est pas son vote qui a fait la différence. Mais son engagement pour l'euthanasie, elle porte elle aussi une responsabilité importante sur ce texte. Elle l'assume parfaitement. On pourrait aussi commenter sa relation avec la Grande Loge nationale de France qui lui remet en grande pompe qu'elle reçoit et qui lui remet une lettre de mission sur ce texte. Donc oui, elle est engagée à titre personnel. Elle n'a pas caché et c'est un point important pour les auditeurs, c'est que l'adoption de cette loi est vraiment pour M. Macron, pour les macronistes, pour eux une étape majeure de leur passage au pouvoir et un accomplissement majeur qui effectivement laissera des traces durables dans la société française.
On va parler de toutes ces traces et de toutes ces conséquences et de ce qui a été voté, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'amendements proposés qui ont été rejetés, beaucoup d'amendements qui ont été approuvés, et des textes qui, au départ, semblaient... des propositions, en tout cas, des articles qui semblaient inapplicables, finalement, ont été également votés. On va revenir avec vous là-dessus pour savoir réellement quelle sauce nous allons être seringués. Mais Rémi Carlu a une question.
Oui, Arthur l'a expliqué dans sa présentation. Au fur et à mesure de l'examen de ce texte, la part de soutien n'a fait que décroître, de sorte qu'on pouvait même avoir un mince espoir avant le vote d'hier. Or, me semble-t-il, le vote d'hier, en tout cas, moi, je le trouve personnellement assez décevant, et donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est un vote décevant, dans le sens où l'écart reste de 60 voix, je crois, entre les pour et les contre, c'est-à-dire plus de 30 par rapport à la majorité, de sorte qu'en fait, depuis la deuxième lecture, les lignes de force ont globalement assez peu évolué, et moins que ce qu'on pouvait espérer?
Oui, non, c'est certain, on est évidemment déçus. Cet écart... reste quand même relativement important. Il y a aussi 35 abstentions. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est eux qu'il faut aller chercher en priorité. Je ne comprends pas comment on peut s'abstenir sur un tel texte. Donc les auditeurs peuvent se renseigner sur la liste des abstentionnistes et les contacter, parce qu'il faut prendre position. On ne peut pas rester comme ça en dehors de ce sujet. Ça nous engage. Ensuite, le texte a été légèrement modifié entre les deuxième et troisième lectures. Donc, comme je l'ai dit, les parlementaires ont retiré le délit d'entrave. Le délit d'entrave dont je l'ai mentionné, hein, c'était cette peine de 2 ans de prison pour toute personne qui veut dissuader l'un de ses proches de mourir. Donc, c'était quand même évidemment horrible. C'était un amendement copié sur la loi sur l'avortement, introduit par des députés LFI. Et donc, c'était le point le plus radical. On a beaucoup travaillé là-dessus, notamment pour défendre les congrégations religieuses. Et donc, les parlementaires ont fini par retirer cette disposition. Donc, pour nous, c'est effectivement un succès, mais un succès marginal. Et donc, c'était l'élément qui aurait pu convaincre des députés de voter contre. De la même manière, ils ont introduit, ou gardé, ou réintroduit une phrase qui dit que la souffrance psychologique seule, n'est pas un motif suffisant pour demander l'euthanasie. Et donc ça, c'est des petites choses que les promoteurs de l'euthanasie, des petites concessions des promoteurs d'euthanasie pour obtenir la majorité, mais c'est évidemment pas suffisant. Je pense qu'il faut parler du contenu hein, du texte, il faut que les auditeurs aient bien conscience de ce qu'il y a dans ce texte. C'est la porte ouverte à la mort facilitée pour déjà aujourd'hui un grand nombre de personnes avec des facilités très larges et cette porte ouverte ensuite comme dans les autres pays ne fera que s'agrandir.
Nous avons une question d'un auditeur très pertinente. Pourquoi le pape n'excommute-t-il pas le président Macron qui a été baptisé et tous ceux qui ont voté ce texte de l'euthanasie à l'Assemblée nationale? Eh bien écoutez, chers auditeurs, vous pouvez demander adresser cette question à votre... passer directement par le pape, ça sera plus simple, les évêques étant courageux comme nos politiques. Autant aller directement à la personne concernée, bien que les évêques se soient un peu réveillés deux jours avant, en tout cas médiatiquement, deux jours avant le vote. Pierre-Alexandre Bouclet, alors c'est très...
Alors il faut peut-être laisser répondre.
Bien sûr répondre, mais alors... mon impolitesse a fait que je ne vous ai pas présenté, chers auditeurs, les personnes présentes autour de cette table. Vous avez Marc Obregon, Rémi Carlu et puis Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie, qui nous accueille chez lui, ce qui est donc assez marrant, et on le voit donc lever la main pour savoir s'il pouvait poser une question alors qu'il est chez lui. Je trouve ça très sympathique et très amusant.
Ah bah vous êtes empereur en votre royaume. Donc je me comporte
poli. Merci beaucoup. Grégoire Pupin, car cette question de l'auditeur sur le pape qui pourrait excommunier le président et tous ceux qui ont voté cette loi, vous en pensez quoi?
Est-ce que vous êtes sûr que M. Macron a été baptisé?
Je sais pas. C'est notre auditeur précise cela. Madame Brigitte Macron, oui. Le président Macron, si, il me semble que si, parce que justement, ce que disait l'abbé Raffray il y a quelque temps, si, en prenant l'exemple de Jordan Bardella, qui a priori favori si Marine Le Pen ne se présente pas, si Jordan Bardella est élu, serait le premier président français non baptisé. Donc il me semble en effet que Emmanuel Macron...
Depuis Clovis,
évidemment, mais sauf que bon, c'est pas un président.
C'est de bonne augure.
Il me semble en effet que le président Macron est baptisé.
Là, en fait, la question a déjà été réglée en partie sur l'avortement, donc on peut dire que ça s'applique par analogie à l'euthanasie. Effectivement, les parlementaires qui votent et qui soutiennent la légalisation de l'euthanasie commettent un péché mortel et ne peuvent plus accéder à la communion. Ça, c'est la règle de l'Église. Alors est-ce que c'est l'excommunication d'emblée? Je ne crois pas, mais en tout cas, c'est déjà un péché mortel. Et il y a eu des décisions qui ont été prises par Rome sur sur, vous savez, ce qu'on appelle l'excommunication latae sententiae, c'est-à-dire automatique, lorsqu'on prend de telles mesures. Il y a des évêques aux États-Unis qui, ostensiblement, refusent la communion ou les funérailles catholiques à des personnes qui ont été militants de l'avortement, et on peut dire donc pareil pour l'euthanasie. Oui, ce serait bien que les évêques, nos chers évêques, aillent réciter le chapelet devant l'Assemblée nationale. Ce serait bien que le Saint-Père a pris position, il a parlé sur le respect de la vie. Je pense que si l'Église catholique, ce sont toujours les catholiques, il faut le dire, hein, le reconnaître, qui ont été les opposants à l'euthanasie, que ce soit aux États-Unis dans les années 20, en Allemagne dans les années 30 et 40, en France encore aujourd'hui, c'est toujours les catholiques qui se sont opposés. Politiquement, ensuite, qui ont été objecteurs de conscience, toujours. Et on peut dire, malheureusement, que si le texte trouve aujourd'hui une majorité à l'Assemblée, c'est aussi parce que la France est de moins en moins chrétienne. C'est le reflet de la sécularisation. C'est le reflet de la déchristianisation. Et donc, lorsque on oublie que les gens ont une âme, lorsqu'on prend les gens simplement pour des animaux évolués, effectivement, lorsqu'ils deviennent séniles, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas leur appliquer le même traitement que ce qu'on applique à des animaux ordinaires. Et donc, c'est cette perte du sens de l'âme que nous vivons en France, qui est une façon d'être rabaissé notre existence à la pure matière, qui fait qu'on facilite finalement, évidemment, on aboutit à ce genre de résultat de légalisation de l'euthanasie, parce que si la vie n'a pas de sens, si la vie est absurde, la souffrance en a encore plus, encore moins de sens, c'est encore plus absurde. Et donc, évidemment, donc moi, je vois ce vote comme vraiment étant à l'image de la France d'aujourd'hui, de la génération. Ce n'est pas un hasard. Quand on écoute les parlementaires dans le débat, le niveau est triste, hein, il faut le dire. Ce n'est pas très glorieux, le niveau d'argumentation, mais c'est à l'image d'un peuple qui perd la foi, qui vit un peu dans l'absurdité et qui veut finalement une mort qui lui ressemble.
Alors je vous invite, chers auditeurs, en effet les débats ont été assez pauvres, mais je vous invite néanmoins, si vous le pouvez, si vous avez le temps, d'écouter le dernier discours de Philippe Juvin, député LR, également médecin à la tribune du Parlement, un discours de 6 minutes, qui en réalité dure 4 minutes, parce qu'il s'est fait huer, évidemment, parce qu'il disait des choses saines, intelligentes, et qui, si un seul député avait vraiment écouté son discours, il n'aurait jamais pu voter pour cette loi. Pour cette loi-là, donc je vous invite, chers auditeurs, à l'écouter. Pierre-Alexandre Bouclet.
Oui, alors vous parliez de la pauvreté des débats. On a vu néanmoins donc une évolution dans les votes, puisque un certain nombre de députés qui avaient voté pour, maintenant se sont mis à voter contre. Je ne suis pas certain qu'on ait vu l'inverse. Je ne pense pas qu'il y ait eu des contre qui maintenant votent pour, sauf erreur de ma part, et corrigez-moi dans ce cas. Mais comment expliquez-vous justement cette évolution? Est-ce que c'est dû au fait de la pression des électeurs dans leur circonscription? Est-ce que c'est parce que on n'a pas l'impression que c'est parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait peut-être un péché mortel, sauf peut-être un ou deux, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Ou est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, parce qu'ils ont lu le texte, enfin, entre-temps, je sais pas, comment est-ce que vous expliquez cette évolution, et est-ce que ça peut être quelque chose sur lequel on peut exercer, si on est contre ce texte, une pression d'une manière ou d'une autre?
Voilà, donc il n'est pas trop tard, le vote final que je disais, c'est le 15 juillet. Donc, il peut encore y avoir un miracle. C'est à force d'écouter, en fait, hein, les débats, les arguments qu'il y a eu, ces changements de position. Le texte est radical. Il faudra y revenir, mais le texte est vraiment radical. Et beaucoup de parlementaires ont, certains parlementaires ont pris conscience que c'est un texte dangereux pour les Français. Et donc, on changeait de position. Ensuite, il y a eu aussi un renouvellement partiel de l'Assemblée après les municipales. Certains députés ont quitté, d'autres sont arrivés. Donc, il y a eu un peu de mouvement. Mais cette érosion du soutien à l'euthanasie, c'est vraiment dû à la prise de conscience du caractère dangereux, extrêmement dangereux de ce texte.
Grégor Pupin dit donc qu'on ne peut jamais désespérer d'un miracle. Chers auditeurs, si vous êtes catholiques, je vous encourage à aller sur l'application, le site Hosanna, pour faire participer à une chaîne de prière. Et puis même si vous n'êtes pas catholique, sait-on jamais, ça coûte pas cher, comme disait Sarkozy. Ça vous coûtera juste quelques secondes et ça pourrait toujours être utile. Marc Obregon a une question.
Oui, bonsoir. Moi, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu de grand mouvement d'ampleur nationale de type la manif pour tous, sachant qu'il y a une partie du monde de la santé qui est contre, une partie du monde catholique, bien sûr, évidemment, la majorité. Est-ce que ça peut être expliqué par le fait qu'il n'y ait pas de porosité entre ces deux mondes ? Est-ce qu'il y a, comme si le dialogue avait été coupé, en fait, entre ces deux mondes ?
En fait, il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits. D'essayer de convaincre les parlementaires par la voie de la raison. Donc, il y a eu des associations médicales, on a beaucoup entendu évidemment la SFAP, il y a eu des tribunes de médecins, des tribunes de soignants qui se sont vraiment manifestés, qui ont été écoutés, entendus. Et le pari, c'était de dire que ces arguments de l'expérience, des soins palliatifs, de l'accompagnement vont réussir à convaincre les parlementaires. Parce que comme c'est un texte qui, au départ, est extrêmement idéologique, on l'a dit, c'est un texte qui se veut progressiste, qui est l'une de ces grandes lois sociétales républicaines, comme on dit habituellement. Si les catholiques étaient sortis dans la rue, certains pensent que cela aurait encore accru la polarisation et empêché les parlementaires de réfléchir. Il y aurait eu une forme de bipolarisation en disant, voilà, il y a soit les catholiques contre, soit le reste du monde pour. Et donc, c'est le choix qui était... C'était pas mon choix, hein, je le dis. Je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est le choix qui a été fait de ne pas engager les catholiques dans la rue. Pour ne pas empêcher les députés centristes de réfléchir, ne pas les coincer dans une opposition, ce dualisme.
Mais pardon, mais un choix par qui ?
Alors,
à quel niveau ça c'est ce genre de décision a été prise sans forcément donner de nom
Non, mais tu veux pas qu'on dévoile l'arrière-cuisine, non ? Marveillon. Enfin, vous savez très bien que, cher Rémi, dans ce genre de lois et de surtout des lois qui bouleverse radicalement et presque définitivement l'anthropologie de notre civilisation, beaucoup d'associations et de mouvements se lèvent, discutent, pour certains, j'allais dire complotent, mais non, mais c'est de voir...
Influence,
exactement, et savoir comment s'opposer, comment agir de manière intelligente, ce qui s'est passé en 2013 lors de la loi dite du mariage pour tous, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, mais malheureusement en 2013 on a vu une foule se lever, échec politique, là on a vu beaucoup en effet de personnes essayer de convaincre en effet par la raison, vous l'a dit Grégoire Pupin, qu'il y a beaucoup de médecins qui sont allés voir les parlementaires, les sénateurs un par un pour les voir. Michel Houellebecq a fait je sais pas combien de réunions avec des parlementaires, des sénateurs qui étaient ravis de voir un grand écrivain, lui en profiter pour leur expliquer que une civilisation qui légalise l'euthanasie, je le cite, ne mérite pas de vivre. On a vu malheureusement également un échec aujourd'hui. Donc dans les deux cas, je sais pas s'il y avait une stratégie qui aurait pu être mieux qu'une autre. On connaît malheureusement le pouvoir du mal, surtout il y a quand même tendance à se développer de manière très vite et très efficace en République, le mal.
On peut ajouter un élément, c'est quand même aussi la duperie du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez vu l'article, la tribune de Mgr Rouget dans le Figaro lundi.
Rappelez-nous, cette tribune.
Alors, en fait, il y a eu plusieurs choses. D'abord, la visite du Saint-Père programmée pour septembre. Ça fait longtemps que le gouvernement, évidemment, a discuté avec Rome, mais il semble très clairement qu'on a fait miroiter aux évêques le fait que M. Lecornu ne convoquerait pas la commission mixte paritaire et que donc la navette parlementaire pourrait s'éterniser et se perdre dans les méandres du calendrier parlementaire à la rentrée. Premier espoir, première demi-promesse non tenue par le gouvernement. M. Lecornu a convoqué la commission mixte paritaire pour effectivement permettre l'achèvement de la procédure cet été au mois de juillet. Ensuite, on a beaucoup travaillé, vous le savez, pour défendre la liberté des institutions confessionnelles, des multisseurs des pauvres, des établissements religieux divers. Et là, retrait très bien du délit d'entrave, mais aussi le gouvernement s'était engagé et avait commencé à travailler à la rédaction de ce qu'on appelle une clause d'établissement, c'est-à-dire une disposition qui garantisse et reconnaisse la liberté des établissements privés de ne pas pratiquer l'euthanasie, de ne pas accueillir la pratique de l'euthanasie. Et là, je dirais, c'était de la politique de salon ou de cabinet. Et comme le dit Mgr Rouget dans son article, finalement, le gouvernement n'a rien fait. Sauf qu'entre-temps, nous ne nous sommes pas opposés. On a fait confiance en la parole du gouvernement. Et cette parole a été trahie vendredi lorsque le ministre, sur les bancs de l'Assemblée, n'a pas soutenu. Et lorsque, finalement, l'amendement pour garantir, reconnaître la liberté des établissements n'a pas été adopté. Et là, la duperie est apparue au grand jour. Sauf qu'entre-temps, l'opposition catholique avait été neutralisée. Et Mgr Rouget ensuite publie son article, sa tribune lundi, pour se plaindre de cette trahison, dixit. Donc il faut voir la politique complète et donc la responsabilité de M. Lecornu. Le gouvernement peut-être peut dire qu'il n'a pas réussi à convaincre les rapporteurs, qu'il n'a pas vraiment la main sur l'Assemblée, etc. etc. Il n'empêche que c'est de la politique. L'Église catholique a toujours été la force principale qui s'oppose à l'euthanasie dans tous les pays, la force qui réussit, y compris en Angleterre, même en Angleterre, qui réussit à l'empêcher. Là, l'Église a travaillé aussi. Elle a choisi cette approche, cette stratégie. Évidemment, c'est facile, une fois qu'on a perdu, de critiquer. Mais en tout cas, je pense que pour l'histoire, c'est important que les choses soient connues.
Il est 18h01, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Grégoire Pupin, qui est le directeur général du Centre européen pour le droit et la justice. Nous parlons de cette loi votée. Il reste encore quelques jours et peut-être, sait-on jamais, un miracle pour qu'elle ne passe pas, cette loi qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté. Alors, chers auditeurs, si vous voulez savoir si vous êtes éligible pour vous faire seringuer, bah, restez avec nous, on va vous décrire le comment, le pourquoi, dans quelles conditions, si tout va bien se passer ou pas. Mais en attendant, chers auditeurs, si on peut parler de ces lois, les combattre, si on peut dévoiler le mensonge des gouvernements et de tous les autres, c'est bah, grâce à vous. Parce que Radio Courtoisie ne vit que de vos dons, ce qui permet à cette radio d'être libre, de parler librement, de dénoncer les puissants qui vont dans le sens du mal, de combattre toutes ces lois iniques votées par nos courageux députés, qui même, qui pour certains ont des convictions, bah, s'envolent lorsqu'il faut voter, parce que sait-on jamais qu'est-ce qu'on va dire de moi dans des salons. Comptez sur le Radio Courtoisie pour ne jamais rien lâcher. Un petit message et on se retrouve tout de suite après.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous. Partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent. Partout. Dans vos téléphones, dans vos poches. 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Il est 18h03, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous parlons d'euthanasie, évidemment. Alors, chers auditeurs, restez avec nous si vous voulez savoir si votre belle-mère est éligible. Sait-on jamais, ça peut rapporter des sous-sous. Ou votre beau-père, si vous pouvez plus le blairer. Mais vous savez qu'à 7h06, c'est également l'heure de la chronique de Rémi Kerlu qui va nous parler d'élections présidentielles.
Et oui, cher Arthur, puisqu'aujourd'hui ont été officialisées les dates des deux tours de la prochaine présidentielle qui auront lieu le 18 avril et le 2 mai. Oui, vous avez bien entendu, le second tour aura lieu le 2 mai, c'est-à-dire le lendemain des grandes manifestations de la gauche et des syndicats. Autant dire qu'on va avoir droit à une représentation grandeur nature, et en plein air, du théâtre antifasciste la veille du scrutin, alors que la campagne est censée se terminer le vendredi soir. Un scandale politique qui en appelle un autre la semaine prochaine, puisque nous saurons mardi si les juges auront la courtoisie de laisser Marine Le Pen se présenter, ou si elle devra s'effacer pour son jeune poulain Jordan Bardella. Alors n'étant pas dans les petits papiers des juges, je ne me risquerai pas un impronostic. En revanche, le Rassemblement National me semble avoir adopté une bien mauvaise stratégie en la matière. Car depuis la première condamnation de Marine Le Pen, c'est comme si le RN s'était résigné à l'idée qu'elle ne pourrait pas être candidate et qu'il fallait donc préparer dès à présent sa succession d'où cette montée en puissance de Bardella.
Et ça ne vous plaît pas?
Bien, certains loueront la sagesse de cette stratégie, puisque quoi qu'il arrive, le RN aura bel et bien un candidat incontesté en interne et installé dans l'esprit de nos compatriotes. Seulement, cette stratégie a facilité en retour la décision des juges. Condamner Marine Le Pen leur sera bien moins difficile que prévu, puisque le RN, depuis 6 mois, nous a lui-même préparé à cette idée. Trop sage, trop précautionneux, le RN a ouvert la soupape au lieu de maintenir une pression maximale sur les juges en assurant que Marine Le Pen serait bien candidate coûte que coûte. Une condamnation aurait été, le cas échéant, plus scandaleuse et plus inacceptable qu'elle le sera désormais, et Bardella aurait pu être propulsé à ce moment-là seulement sur le cadavre encore fumant du martyr Le Pen qu'il aurait eu pour tâche de venger. En plus d'un excellent levier de mobilisation électorale, c'eût été une illustration spectaculaire de la nocivité du gouvernement des juges et le prélude du combat herculéen qui doit venir pour libérer la France de leur emprise entre la légalité et la légitimité.
Marine Le Pen ou Jordan Bardella rejoindra une liste de prétendants déjà bien fournie. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant de candidats à la fonction suprême ?
Et bien effectivement, les journalistes qui s'y sont essayés décomptent pour l'heure entre 30 et 40 candidats putatifs ou déclarés, ce qui est sans doute du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'une phase de pré-candidature. Certaines resteront de simples déclarations, d'autres dépendent de l'organisation de primaires qui n'auront peut-être jamais lieu, beaucoup jetteront l'éponge en route faute de moyens et de soutien, d'autres enfin seront arrêtés par le véritable premier tour de la présidentielle qu'on appelle les parrainages. Mais la question, votre question, reste entière. Comment expliquer qu'il y ait autant de pré-candidats? Alors il y a bien sûr des raisons carriéristes. Se dire candidat, c'est faire un 20h sur TF1 et une matinale sur France Inter, ce qui n'est jamais mauvais pour accroître son capital politique et négocier chèrement son ralliement. Il y a aussi l'éclatement du paysage politique et la déliquescence du système partisan. L'opinion n'est plus encadrée et regroupée en quelques familles d'idées par les grands partis comme jadis. Dans l'archipel français, l'heure est aux surmesures électorales et à la logique de la cause, qu'elle soit écologique ou animaliste, rurale ou souverainiste. Il y a encore la crise des partis, ceux-ci ne remplissant plus leur rôle de filtre des personnalités qui préfèrent désormais chacune tenter leur chance. D'ailleurs, ces partis sont devenus pour beaucoup des mouvements, des boîtes à idées ou des microstructures éphémères et sur mesure, fondées pour appuyer un candidat et non plus pour agréger des élus et une partie de l'opinion publique sur le temps long. Il y a, enfin et surtout, hormis Mélenchon et Le Pen-Bardella aux deux extrémités du spectre, l'absence de candidats naturels à gauche, à droite et au centre, c'est-à-dire de candidats qui seraient suffisamment imposants pour dissuader leurs petits compagnons de tenter l'aventure. Le jeu démocratique ne semble plus capable de produire ce qu'on appelait jadis des animaux politiques. Et puisque le niveau des politiciens s'effondre et que leur bilan est calamiteux, tout le monde se croit désormais apte à briguer la fonction suprême, comme on obtient une promotion, sans prendre le temps de méditer sur ce qu'elle demande véritablement. Au fond, cette pré-campagne est un concours de nains pour savoir lequel est le plus grand, et interdiction de les lancer.
Que cela nous dit-il de l'évolution de la fonction présidentielle ?
Eh bien, cette immixtion du pouvoir judiciaire dans le jeu présidentiel par l'empêchement de la favorite, couplée à cette multiplication de candidatures minuscules jusqu'à l'absurde, témoigne ensemble d'une désacralisation sans précédent de la fonction présidentielle. La présidence est lacérée de bout en bout par les contre-pouvoirs institués, elle n'intimide plus ni le politicien quelconque ni le premier juge venu, d'intouchable et d'inviolable, elle a comme perdu son éclat. Pendant que la France entière communie dans le mythe gaulliste avec les deux films d'Antonin Baudry, comment ne pas voir que son héritage est quasi complètement dilapidé dans les faits ? Le pouvoir de la Ve République, initialement placé hors de portée des politiciens et des juges, a été rabaissé au rang des contingences ordinaires. La part républicaine du régime a pris le dessus sur sa part monarchique. Au fond, c'est à une gigantesque crise de l'autorité au plus haut sommet de l'État que nous faisons face. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu un prince digne de la fonction qu'il occupait et de ce qu'elle implique, et c'est pourquoi tout se délite depuis, comme un palais abandonné sur lequel la jungle reprendrait ses droits. Plus encore que de résoudre telle ou telle question particulière, le président qui voudra sauver notre pays de la perdition devra avant toute chose restaurer la verticalité et la majesté du pouvoir au nom d'une légitimité supérieure et face à toutes les sortes de coteries. Il est là, je crois, l'enjeu principal de la prochaine présidentielle, un chef vite.
Merci Rémi Carlu, et je rappelle que dans une de vos précédentes chroniques, vous aviez rappelé très justement qu'au nom de la dignité, on avait interdit de lancer les personnes de petite taille, qui fait un grand débat au sein de l'incorrect, mais bon,
qui ont perdu leur travail
ce soir, qui ont perdu leur travail, mais au nom de cette même dignité, on a donc autorisé à buter les infirmes et les vieillards. Nous sommes toujours donc avec Grégoire Pupinck pour parler de cette loi qui a été votée donc en troisième lecture hier et qui, si tout se passe comme prévu dans le plan de la rue Cadet, sera définitivement adoptée, validée par le Conseil constitutionnel le 15 juillet.
Ah oui, parce que c'est
quoi la rue Cadet?
La franc-maçonnerie, excusez-moi. La franc-maçonnerie qui sont pour le coup, ils sont pas cachés. Il y avait même une interview du grand chef franc-maçon de la Grande Loge qui, son croyant très original, avait expliqué qu'il fallait changer l'homme pour changer la société. C'est vrai qu'il y en a qui ont pas essayé au XXe siècle et on sait que ça s'est pas terminé par des massacres et des génocides. Merci les francs-maçons, non seulement vous êtes ringards, mais vous êtes encore plus tarés qu'on ne le pensait. Bon, alors, revenons à cette loi. Cher Grégoire Pupin, qui est éligible? Est-ce que je peux mettre ma belle-mère sur la liste?
Écoutez, en tout cas, elle peut faire la demande. Si elle fait la demande à un médecin, le médecin n'a pas besoin, cette demande n'a pas besoin d'être formalisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exigence de témoin. Il n'y a pas d'exigence, selon le texte de la loi, de demande écrite. Donc, en fait, il faut simplement que le médecin puisse affirmer que telle ou telle personne a fait la demande. Voilà. Donc déjà, c'est aucun formalisme requis par le texte quant à la formulation de la demande et quant à la présence de témoins. Pas de notaire, évidemment, pas de juge, mais même pas de tiers. Sachant que c'est ce même médecin qui, ensuite, pourra pratiquer l'acte. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent bien. On n'exige aucune preuve de la demande. C'est le médecin qui dit que la demande a été faite, et c'est le médecin qui pratique l'euthanasie.
Mais est-ce qu'il y a vraiment des... J'ai une question naïve, mais moi j'ai plutôt, au cours de ce débat, ces lois, entendu presque que des médecins complètement opposés. Il existe des médecins militants vraiment qui rêvent de piquer des gens.
Oui, il y en a, oui. Il y en a qui le font, oui. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le... Bien sûr. Moi, je reviens toujours aux exemples. Bien sûr, oui. Il ne faut pas croire que les médecins sont tous des anges. Pas du tout. Donc, des médecins, des infirmières. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est... Il n'y a pas de formalisme requis dans l'expression de la demande. Donc, il suffit qu'un médecin affirme que telle personne a demandé. Ensuite, évidemment, il y a des critères. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est le même médecin qui prend la décision pour savoir si la personne respecte les critères prévus par la loi. Le médecin prend seul la décision. Ensuite, c'est le médecin qui attend 48 heures. Il informe la personne et doit attendre 48 heures entre le moment où il dit « Oui, je peux le faire », et le moment où il le fait. Et ensuite, c'est ce médecin qui communique à l'autorité ou à la commission d'évaluation et de contrôle les informations relatives à ce qu'il a fait. Donc c'est lui seul qui informe la commission de contrôle et d'évaluation de ce qu'il a fait. Donc en fait, il peut mettre un peu ce qu'il veut.
Oui.
Alors ensuite, effectivement, il y a un enrobage. L'enrobage, c'est quoi? C'est, il doit consulter une commission pluridisciplinaire. En fait, il doit choisir un de ses confrères. C'est lui qui choisit qui? Un confrère spécialiste dans l'affection dont est atteint la personne promise à la mort. Et le consulter. Le consulter seulement. Et il doit consulter également un aide-soignant du service ou un autre. Et le tout peut se faire aussi par téléconsultation. Donc il peut téléconsulter deux autres personnes, mais c'est lui seul qui prend la décision à la fin. Ensuite, il n'a pas l'obligation de prévenir la famille. Donc un gamin de 19 ans ou une dame ou un parent, le médecin n'a pas l'obligation de prévenir la famille. Le médecin n'a même pas, il n'est même pas prévu qu'on consulte les proches. Il n'est même pas prévu qu'on consulte le médecin traitant. Parce que le médecin dont je parle là, ce n'est pas le médecin traitant. Ça peut être n'importe quel médecin. Ce n'est pas le médecin qui s'occupe au jour le jour. Non, ça peut être n'importe quel médecin. Et pas d'obligation, ça a été refusé de consulter le médecin traitant. Donc je répète, pas de formalisme, 48 heures de délai, la même personne qui fait tous les actes et qui, à la fin, se justifie. Ensuite, sur les critères de discernement, on dit oui, mais en fait, ça doit être une demande libre et éclairée, etc. et il faut que la personne puisse faire sa demande. Mais en fait, le texte même là-dessus est léger. Parce qu'évidemment, ce qui est en ligne de mire, ce sont les personnes âgées dont le discernement est fluctuant. Alors le texte prévoit que seules les personnes dont le discernement est gravement, gravement affecté, il faut vraiment être atteint d'Alzheimer de façon très prononcée, ne peuvent pas faire la demande d'euthanasie lorsque elles sont dans un état de discernement gravement affecté. Ça veut dire qu'une personne qui est ordinairement privée de discernement, il suffit de pouvoir dire que au moment où elle a fait sa demande, elle avait son discernement, parce qu'on parle uniquement du moment de la demande. Donc il suffit que la personne, qu'on prétende que la personne était lucide pendant 10 secondes ou 5 minutes pour justifier le bien fondé de la demande, alors même que la personne, pendant tout le reste du temps, est, excusez-moi l'expression, dans les choux. Là-dessus, c'est vraiment aucune protection. Les majeurs, je répète, les personnes sous tutelle, les personnes sous tutelle et curatelle, il y en a beaucoup, énormément, qui ne sont pas capables de gérer leurs propres biens, dont la loi reconnaît qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions importantes les concernant. Eh bien, le texte prévoit évidemment de permettre leur euthanasie. Pourquoi ? Parce que ce sont eux aussi les personnes principalement ciblées, des personnes finalement vulnérables, qui ne servent à rien, etc., qui coûtent. Et donc, la loi prévoit qu'on peut affirmer qu'elles demandent l'euthanasie. Elles ne sont pas capables de demander d'acheter un truc par elles-mêmes. Mais par contre, on dit qu'elles ont la capacité de demander à mourir. Et le pire, c'est que le médecin qui prétend cela, il doit simplement informer le tuteur ou le curateur, c'est tout, et recueillir son avis.
C'est consultatif, quoi. C'est-à-dire que le tuteur n'a aucun pouvoir...
Non.
Sur la demande d'une personne auquel normalement il doit gérer, c'est lui qui doit décider s'il peut faire son chèque ou pas, s'il peut dépenser tel ou tel argent. Voilà. En revanche, s'il veut se suicider, là pour le coup, il est complètement libre et suffisamment sain d'esprit. Et d'accord, c'est effrayant.
C'est effrayant. Donc personne sous tutelle. Donc il faut bien comprendre que c'est l'euthanasie pour les personnes vulnérables. On fait tout pour que les personnes vulnérables puissent être euthanasiables. Et encore une fois, vous comptez 3-4 jours pour le faire. Sans que les proches aient un droit à être informés. Peut-être que les proches seront informés, mais sans qu'ils aient le droit d'être informés, et plus encore, sans que les proches aient le droit de contester en justice la demande du médecin. Parce qu'imaginez que vous apprenez qu'un de vos proches est dans cette situation, qu'un médecin a déclaré qu'il voulait mourir, que vous savez très bien que votre proche est dépressif, comme c'était le cas en Espagne, et que parmi les symptômes de la dépression, il y a la tendance suicidaire. Donc vous savez que votre proche a une tendance suicidaire. Et le médecin dit « Non, non, mais il m'a demandé à mourir. » Et j'ai décidé qu'il pourrait. Vous ne pouvez rien faire d'après le texte. Vous ne pouvez pas agir en justice pour contester la décision du médecin. Donc vous êtes ligoté.
C'est fou, c'est qu'on voit à quel point ils ont tout prévu. Pierre-Alexandre Bouclet.
Alors, je réagis sur ce que vous venez de dire, notamment pour les tuteurs, enfin les personnes ayant une tutelle sur une personne vulnérable, mais peut-être aussi pour d'autres. Ce dispositif, est-ce qu'il ne se heurte pas à un principe quand même, qui n'est plus beaucoup utilisé, il faut dire, mais qui est le principe de non-assistance à personne en danger et qui en soi est un délit. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'avenir, trouver des évolutions de cette loi, notamment pour... qu'on ne puisse pas laisser quelqu'un en danger de mort, c'est complètement ça, sans avoir, quasiment en étant puni si on n'intervient pas, au contraire. Parce qu'en théorie, lorsque l'on voit une personne en danger de mort, et notamment si elle n'est pas consciente des risques qu'elle encourt et des menaces qui pèsent sur elle à brève échéance, on parle de 3-4 jours, est-ce qu'on ne, on ne peut pas s'appuyer sur cette disposition de la non-assistance à personne en danger ?
En fait, non.
Non.
Non, on ne peut pas. Parce que, en fait.
Mais ça veut dire que le critère disparaît. Enfin, la notion de non-assistance à personne en danger disparaît du code, alors.
Elle disparaît du code selon la modalité de la mort. Ça veut dire que si votre proche veut se suicider par lui-même, là, vous avez l'obligation de lui porter assistance. Mais si votre proche prétend vouloir être suicidé, là, c'est l'inverse. vous avez l'obligation de respecter sa liberté.
Ça veut dire quoi, donc, être suicidé?
Allez, prendre une injection.
Être euthanasié.
Ça veut dire que s'il veut sauter d'un pont ou sur le métro pour emmerder tout le monde, il peut pas. Et donc vous, si vous pouvez l'en empêcher, on peut ensuite vous attaquer sur ça. Mais en revanche...
S'il veut se jeter d'un pont et que tu ne l'empêches pas, tu vas en prison.
Oui, c'est ça.
Enfin, vous allez en prison.
Mais en revanche, s'il demande qu'un médecin le pique, vous pouvez pas l'en empêcher.
Et donc, pire, vous êtes condamné si vous essayez de l'en empêcher.
Non, le délit d'entrave a été enlevé.
Ah bon? Ah bah ça va alors.
Mais c'est... Donc ça veut dire qu'en fait, le meurtre est possible, le suicide l'est pas. En fait, c'est ça que ça signifie, quoi.
C'est là où c'est absurde, c'est qu'en fait, en plus, en droit pénal, en principe, les modalités de la mort sont indifférentes. Si une personne veut mourir, en principe, la non-assistance à personne en danger devrait s'appliquer dans les deux cas. Parce que la modalité de la mort devrait être indifférente quant à l'intention. Puisque dans les deux cas, l'intention est de mourir. Donc c'est là où on voit que c'est absurde. C'est que dans un cas, on dira oui, il y a une obligation de prêter assistance. Dans l'autre cas, il n'y a pas d'obligation. Et au contraire, vous devriez respecter sa liberté, etc. Mais c'est absurde parce que dans les deux cas, la personne a la même intention de mourir. La modalité est quasiment la même. Sauf que dans un cas, la personne aura dit « je veux faire ça dans le cadre médical ». Et dans l'autre cas, la personne dira « je le fais par moi-même ». Donc, il y a là, évidemment, une incohérence dans le droit pénal. Et ça, c'est une incohérence qui est fondamentale, parce que la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté repose sur l'idée, finalement, que, comme ils le disent, vouloir mourir, disposer de son corps, disposer de sa vie, est une liberté. Donc, en fait, on devrait même, en théorie, retirer le délit de non-assistance à personne en danger s'agissant du suicide. Parce que si vraiment c'est une liberté, dans ce cas-là, ce délit n'a plus aucune raison d'être, si ce n'est pour préserver les horaires de la SNCF.
Comme le disait le grand penseur Raphaël Enthoven, la vie n'est pas sacrée, contrairement à la liberté. Il faut vraiment qu'il reprenne des cours de philosophie, celui-là. Rémi Carlu.
Oui, deux questions rapides. Donc vous nous avez décrit, un projet de loi de dément, quoi, effroyable. Est-il plus ou moins radical que les législations sur l'euthanasie actuellement en cours en Belgique et au Canada? Et deuxième question, quels sont les amendements radicaux qui ont été retoqués dans ces premières discussions, mais qui reviendront nécessairement et qui annoncent les futurs élargissements de ce texte?
Alors, le texte est plus radical à certains égards, notamment le délai de 48 heures. Là, évidemment, on a vu ça nulle part ailleurs. L'absence de formalisme sur la demande d'euthanasie. En Espagne, il y a des obligations de formalisme, il faut des témoins, etc. Là, tout est donné au même, tout le pouvoir est donné au même médecin. S'il n'y a aucune, c'est vraiment faire une confiance aveugle au médecin, c'est extrêmement dangereux. L'histoire nous enseigne que c'est extrêmement dangereux et le droit pénal doit toujours être là. Le droit est là pour envisager le pire et ne se base jamais sur la confiance aveugle dans les bons sentiments des gens. Donc oui, le texte est à certains égards plus radical que dans d'autres pays. D'autres pays ont élargi l'euthanasie aux mineurs, on le sait que ça viendra aussi. Au Canada, il y a la question de l'euthanasie pour les troubles psychiques. Au Canada, ils réfléchissent là-dessus. Initialement, ils l'avaient mis dans la loi, mais avec une clause en disant « ce sera mis en œuvre plus tard ». Et depuis 2022, ils repoussent tous les ans l'application de l'euthanasie pour troubles psychiques. Alors que, à ma connaissance, c'est possible en Belgique. Pour la France, les critères sont larges. On verra ensuite comment ils sont appliqués, sachant que, encore une fois, il appartient aux médecins de décider, et il y a un contrôle qu'après la mort. Et ce n'est pas vraiment un contrôle, parce que c'est sur la base des informations communiquées par le médecin. Et dans cette commission, il y a notamment des membres d'associations dont on peut penser qu'ils seront représentatifs des associations pro-euthanasie.
C'est quoi un contrôle après la mort ?
Ça ne sert à rien. Il y a ces commissions de contrôle et d'évaluation. Donc, ils vont faire des statistiques pour nous expliquer ensuite qu'il faut élargir. D'accord. Parce qu'ils feront des rapports pour nous dire que voilà, ce n'est pas normal, vous comprenez. À 18 ans et un jour, on peut, mais à 17 ans et 6 mois, on ne peut pas. Donc ce sera ça, c'est pas normal que des personnes qui souffrent de troubles psychologiques uniquement soient exclues de l'euthanasie. Donc en fait, ça va être comme pour l'avortement. Dès lors que c'est une liberté, il n'y a aucune raison de mettre vraiment des limites arbitraires, matérielles. Voilà, c'est très simple. Si la personne veut mourir, les promoteurs de l'euthanasie ont toujours aussi été des promoteurs du suicide, et même d'abord et avant tout du suicide. L'idéal de la DMD, c'est le suicide, c'est pas l'euthanasie. C'est le suicide volontaire, choisir sa mort. Voilà, c'est ça l'acte de bravoure, quoi. C'est ça leur idéal. Et l'euthanasie, c'est plus, on va dire, une mesure d'hygiène sociale. C'est pour désherber le jardin, comme ils disent. Désherber les mauvaises herbes, faire le ménage. Et donc, c'est ça leur idéal. Et donc, évidemment, si la mort volontaire est fondée sur l'autonomie, sur l'expression de la volonté, il n'y a aucune raison de poser des conditions excessives quant à l'état de santé.
Emmanuel Rechberg vient de nous rejoindre, ça tombe bien, vous parlez de la DMD, je crois qu'on dévoilera tout à l'heure deux, trois choses sur cette association, je rappelle l'association pour le droit à mourir, soi-disant, dans la dignité. Emmanuel Rechberg.
Oui, une question, le droit français considère désormais que l'euthanasie était l'équivalent d'une mort naturelle, ce qui a un impact notable, notamment sur les assurances-vie, en France en tout cas, puisque les mutuelles ou les assurances seront tenues de considérer qu'un meurtre est l'équivalent d'une mort naturelle. Mais qu'en est-il des autres pays? Est-ce qu'ils acceptent l'euthanasie comme une mort naturelle? Autrement dit, faut-il encore avoir des polices d'assurance dans d'autres pays ou mieux-il les avoir en France?
Alors, sur ce point-là, ça fait partie des points qui ont été discutés. Et là, justement, également, ce texte, cet aspect-là, a été retiré du texte. Donc, il n'y a plus cette disposition sur le qui a affirmé que les personnes mortes par euthanasie étaient réputées mortes naturellement. Ce n'est plus dans le texte. Maintenant, les conséquences
sont énormes.
Les conséquences, dans la proposition de loi, il y a des dispositions à la fin, quand même, sur la question des contrats d'assurance vie, etc. Là, il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que la proposition de loi prévoit précisément les clauses que devront contenir les contrats et l'obligation pour les mutuelles de couvrir des garanties pour les personnes qui meurent par suicide assisté ou par euthanasie. La question étant le délai, en fait. Je crois qu'il y a une question de délai, il faut vérifier ça, entre la signature du contrat et la mort.
Donc il ne faut pas se presser d'aller euthanasier Pépé pour récupérer sa maison.
Il y a un délai, il me semble bien qu'il y a un délai minimum à vérifier, encore une fois, entre les deux, entre la signature et la mort, volontaire.
Marc Obregon.
Oui, on parle beaucoup des victimes à bon escient, mais parlons un peu des bourreaux, parce qu'on sait qu'en Belgique, le personnel soignant qui administre le dernier geste en fait, souffre de syndrome post-traumatique. Est-ce qu'il y a une part de la loi qui encadre ce genre de choses, ou qui prévient ce genre de choses?
Non, en fait, non. C'est pour eux un vrai problème. On a effectivement des témoignages, il y a encore un film, là, Anesthésia, qui circule, qui a été publié, un documentaire là-dessus, où une infirmière qui vraiment a l'air très très bizarre quand on la voit et quand on l'écoute, elle a l'air vraiment atteinte, hein, psychologiquement, mais elle a l'air d'aimer, en fait, donner la mort. Mais elle recommande quand même de le faire plutôt en fin de journée, parce que vous comprenez... C'est un peu dur quand même, ça vous affecte. Et puis ensuite, vous pouvez prendre soin de vous le soir. Donc oui, c'est comme l'avortement. L'avortement, les médecins, les étudiants en médecine ne font pas médecine pour ça. Il y a une époque, dans les années 70, il y avait des militants. Mais avec les progrès de l'échographie, les étudiants en médecine, les gynécologues, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils se détournent évidemment de cette pratique et ils aiment pas ça, les sages-femmes non plus. Ce sera pareil pour l'euthanasie, un vrai problème. Et donc on peut penser que il y a des personnes qui vont se spécialiser. C'est le cas en Belgique, c'est le cas en Suisse. En Suisse, ce sont des associations, c'est démédicalisé. C'est des associations qui font ça, Dignitas, Exit, et ils font ça à la chaîne, quoi. Et c'est leur métier. Et déjà, le texte prévoit aussi que des médecins puissent ou des infirmiers se déclarer auprès des ARS pour se porter volontaire. Donc, je pense qu'on va plutôt s'orienter vers des équipes mobiles d'euthanasie, comme il y a des équipes mobiles de soins palliatifs, hein, ce sera des équipes mobiles d'euthanasie qui pourront aller quand on les appellera.
Certains vont se dévouer d'ici quelques années pour aller piquer Madame Braun-Pivet, je pense. Mais revenons sur le débat qu'il y a eu il y a quelques jours, justement sur les structures, les établissements qui s'occupent des personnes âgées, qui s'occupent des pauvres, des établissements confessionnels. Est-ce qu'avec cette loi, ces établissements vont être contraints d'appliquer, d'euthanasier des gens ?
C'est avec cette loi, tout établissement médical, socio-médical, tout est privé comme public, privé, financé par l'État ou non, même l'association entièrement privée, qui ne reçoit aucun sou des impôts, sera tenue, c'est les termes de la loi, d'accueillir la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté sur ses patients ou ses résidents. Alors, les médecins ne sont pas obligés de le faire eux-mêmes, mais ils ont l'obligation de désigner un de leurs confrères qui veuille bien le faire. Donc là, au niveau personnel, la liberté de conscience est très limitée parce qu'on dit certes, vous ne faites pas vous-même la piqûre, mais vous devez désigner un complice qui la fera à votre place. Et pareil pour les infirmières, mais pour les établissements, même si tous leurs médecins, tous leurs infirmiers sont objecteurs, ils ont l'obligation de laisser entrer une équipe mobile d'euthanasie pour venir euthanasier l'un de leurs résidents, maison de retraite, EHPAD, ou l'un de leurs patients. S'ils ne le font pas, alors il n'y a plus le délit d'entrave, il n'y a plus les 30 000 euros et les 2 ans d'amende et les 2 ans de prison, mais il y a encore les sanctions civiles, parce qu'une obligation légale, ça, si on ne la respecte pas, ça provoque des sanctions civiles, et évidemment des pénalités et des sanctions financières pour les établissements financés par l'État dans leurs relations avec les ARS.
Est-ce qu'il y a un risque dans ces cas-là que ces structures, ces établissements ferment, tout simplement, quittent la France ?
Oui. Alors j'en parle régulièrement avec ces établissements. Plusieurs disent très clairement qu'ils ne sont pas là pour faire ça et qu'ils ne le feront pas. Ils n'accepteront pas l'entrée dans leur établissement de personnes pour pratiquer l'euthanasie. Et donc, ils s'exposeront aux sanctions et ils procéderont aux différents recours judiciaires. Et s'il le faut, bien sûr qu'ils quitteront ils ont annoncé qu'ils quitteraient la France. Ce sont souvent des congrégations qui ont des maisons un peu dans le monde entier. Donc, ils ne vont pas perdre leur âme pour rester en France. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que les promoteurs de l'euthanasie, comme vous avez mentionné l'influence des loges maçonniques, pour certains d'entre eux, ils ont quand même une haine viscérale de l'Église. Voilà. Donc, pour eux aussi, obliger tous ces établissements chrétiens, catholiques, à renier leur foi parce qu'ils sont financés par l'État en grande partie, c'est aussi une conquête idéologique majeure. Donc, ils jouent aux échecs, ils ont bien conscience que imposer l'euthanasie à ces établissements, c'est exiger d'eux soit qu'ils quittent la France, soit qu'ils se renient, qu'ils renient le Christ, qu'ils renient leur foi, et qu'ils se renient eux-mêmes. Et donc là, évidemment que c'est volontaire, parce que ça ne coûterait rien aux législateurs d'organiser une clause d'établissement. Ça ne coûterait rien aux législateurs d'introduire une disposition qui dit simplement lorsque l'établissement ne veut pas, c'est l'autorité régionale de santé qui s'occupe de la procédure. Ça ne coûte rien de faire ça. C'est extrêmement simple. Mais ils savent que comme ça, ils peuvent tenir et blesser l'âme de ces établissements, de ces congrégations, comme ils l'ont déjà fait par le passé, en interdisant aux religieuses, dans le passé, de s'occuper d'hôpitaux, de s'occuper des écoles. C'est la même guerre qui se poursuit. Ils ont trouvé un moyen de les blesser au cœur.
Qui en attend de ces frères maçons qu'ils aillent changer des couches dans les hôpitaux, donner la cuillère aux vieux grabataires, faire des pansements. Parce qu'évidemment, comme chacun sait, c'est les francs-maçons qu'on trouve auprès des plus petits, des plus vulnérables, des blessés et de nos vieillards. Une dernière question, Grégoire Pupin, si tout est voté, que la loi est validée, comment vous allez continuer le combat ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, l'objection de conscience. Je pense que dans l'immédiat, il faut préserver la liberté des établissements privés et confessionnels en particulier. Il faut qu'on ait, nous aussi, en France, des lieux dans lesquels on soit en sécurité, nous et nos proches. Je pense que c'est une priorité. Donc, recréer, maintenir des îlots de civilisation, de charité, d'humanité, qui soient ces établissements. Donc, lutter pour le respect de leur liberté de conscience et de religion. Donc, pour ça, on a encore des armes, en droit européen notamment. La liberté des établissements, contrairement à ce qui a été dit au Parlement, les établissements ont une garantie en droit européen international de leur liberté de conscience et de religion. La liberté de conscience n'est pas que individuelle, c'est totalement faux. Donc, il faut que nous fassions prévaloir et respecter la liberté des établissements pour ça par des recours. Alors d'abord le Conseil constitutionnel, mais ensuite surtout au niveau européen et international. Donc on s'y attelle déjà. Moi, j'y travaille depuis déjà plusieurs mois à préparer ces recours. Nous sommes allés à Genève, vous savez, on a rencontré la rapporteure des Nations Unies pour la liberté de religion qui a écrit au gouvernement français pour lui demander de renoncer au délit d'entrave. Ça a abouti. Donc on a nous, à l'ECJ, des relations aux Nations Unies, à la Cour européenne, un peu partout. Et donc, au niveau international, on agit pour dénoncer ce qui est vraiment une atteinte grave, sérieuse, réelle, à la liberté de conscience, la liberté de religion des congrégations et aussi des usagers. Donc, très clairement, la France, en adoptant ce texte, se met en violation du droit européen et international en matière de liberté de conscience et de religion. C'est très clair, c'est très net, ça fait quasiment aucune discussion. Et donc, il nous appartient maintenant de le faire reconnaître et de faire condamner la France.
Et enfin, toute dernière question. Le pape François vient en septembre. Le pape François. Léon XIV vient en septembre. J'ai toujours un problème avec les prénoms. Léon XIV vient en septembre en France, à Paris. Qu'attendre de Léon XIV sur le sujet? Est-ce qu'il peut peser sur quelque chose?
Ah, il est évident que le Saint-Père parlera de ce sujet ouvertement et qu'il défendra la liberté de conscience et la liberté de religion, qu'il défendra les établissements. Ça me paraît évident.
Merci beaucoup, Grégoire Pupin. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, une défaite de plus, mais ce n'est pas pour ça qu'on a perdu la guerre. Il faut se battre et de toute façon, le meilleur moyen que ces loges, ces hommes diaboliques perdent, c'est d'empêcher que des gens demandent à se suicider. Et on sait que si on les entoure, généralement, ils ne demandent plus l'euthanasie ni le suicide. Donc voilà, entourez vos proches, essayez de soigner ce que vous pouvez soigner. Quelqu'un qui est accompagné, qui est aidé, qui est soigné pas que par des techniques médicales, mais aussi par la parole et par la présence, généralement des envies de partir disparaissent. Voilà, donc cher Grégoire, on vous invitera évidemment prochaines émissions pour suivre cette affaire. On a jusqu'au 15 juillet pour se battre, et puis de toute façon, même si le 15 juillet le Conseil constitue valide cette loi, de toute façon le combat continuera par d'autres moyens. Chers auditeurs, on se retrouve d'ici quelques instants, nous parlerons, vous savez, de cette grande contre-enquête lancée par Radio Courtoisie, Boulevard Voltaire, Logim et L'Incorrect ont tout cet écosystème associatif de gauche qui défiscalise à gogo en plus de toucher des subventions et qui, d'après nos révélations, devraient se poser quelques questions. En tout cas, le ministre devrait se poser des questions, le parquet devrait peut-être réfléchir à deux, trois choses également. Et puis, comme ils ont l'air d'être occupés par autre chose, on bosse à leur place et on leur soumet quelques idées. À tout de suite.